C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Dandy. Auteur Ludwig Tieck, 1773-1853, prussien. Écrivain, politique, libéral pour l'étranger, conservateur pour son pays. Partisan de la Révolution française comme tant de jeunes écrivains allemands, puis se mettant au service du roi de Prusse et s'opposant à la Révolution de 1848. Hétérosexuel. Œuvre Le Chaboté, 1797, un allemand, Der gestiefelte Kater. Personnage Le Chaboté. Adaptation Le Chaboté de Tieck est lui-même une variation sur le conte de Perrault, lui-même étant une variation sur des contes antérieurs. Les personnages de contes sont les premiers dont nous fassions connaissance et nous ne les oublions jamais. C'est moins parce qu'ils sont schématisés que grâce à la capacité d'absorption et de mémorisation de l'enfance. C'est à cet âge-là qu'on devrait nous parler de Robert de Saint-Loup et de Macbeth. Tiens, seulement voilà, les parents sont souvent d'anciens enfants qui ont oublié l'enfance pour apprendre des préjugés. Et ils croient que la schématisation, surtout si elle est exprimée dans un parler nunuche, protège les enfants. Comme si eux-mêmes les protégeaient en leur lisant les horreurs que sont les contes de Grimm. Comme si les enfants allaient être rendus homosexuels parce qu'ils apprendraient que Saint-Loup l'est. Comme s'il s'agissait de sceller plutôt que d'ouvrir. Je soupçonne beaucoup de parents de préférer une littérature conventionnelle pour enfants parce qu'elle est simple à comprendre et vite lue par eux. Une variation capitale et singulière du Chaboté est celle de Ludwig Tieck, le romantique allemand. Capitale parce qu'elle est singulière. Tieck a inventé une nouvelle forme dans le théâtre occidental en mettant dans sa pièce acteur, critique, auteur et même spectateur, bien avant Pirandello et bien plus brillamment que lui. Œuvre tellement audacieuse qu'elle n'a eu aucune influence. Les nouveautés fracassantes inquiètent, elles ne sont pas comprises. Il leur faut des décennies, sinon des siècles, pour se répandre. C'est la banalité qui a de l'influence. Quelle que soit la version, Le Chaboté est une histoire de ruse au service d'autrui, ce qui est exceptionnel parce que la ruse est le plus souvent égoïste. André Gide, un des chansonniers du Lapin Agile, a écrit à la fin du 19e siècle un Chaboté qui donne l'interprétation la moins connue et la plus mélancolique du personnage. Pour Gilles, il y a un après la victoire du Chaboté et il est désenchanté. Ah, qu'il était mon Chaboté, luisant d'amour et de gaieté, quand, chat d'audace, avec des airs exorbitants, il précédait mes beaux 20 ans, en criant place, place, au marquis de Carabas. Adieu, ajoute-t-il, mélancolique, adieu les rêves. Et voici le Chaboté, hélas, fini, moisi, débotté pour toujours, quasi paralytique. Et j'ai grand peur à tout moment de voir mourir d'épuisement l'ami d'enfance que, pour moins de solennité, j'appelle ici le Chaboté, mais qu'on nomme aussi l'espérance. Pour parler du Chaboté de Ludwig Tieck, je reçois Nicolas Vaquet, traducteur et préfacier de la pièce aux éditions Rivage Poche. Nicolas Vaquet, racontez-moi d'abord, s'il vous plaît, l'histoire du Chaboté dans la version la plus connue qui a été fixée par Perrault.
Alors, le conte de Perrault, comment vous dire, il est tellement simple, il est tellement limpide, c'est assez difficile de le résumer. Un meunier meurt, ayant 3 fils. L'aîné hérite du moulin, le second, si je ne me trompe pas, c'est d'un cheval, et le troisième d'un chat. Personne ne veut du chat. Or, le plus jeune qui hérite du chat, finalement, est un moins que rien, ne sait pas quoi faire dans la vie, n'a pas d'argent. Donc le chat va s'employer, et le chat parle, le chat s'anime, et le chat va s'employer à faire sa fortune et à le conduire sur le trône. Il va, par tout un tas de manigances auprès d'un ogre, auprès d'un roi, auprès d'une princesse, faire en sorte que ce faux marquis de Carabas, comme il l'appelle, finisse par accéder au trône et à épouser la princesse.
Alors, c'est un conte dont on connaît l'origine ou pas ?
Alors, elle est très discutée. Moi, j'ai trouvé des traces du chat dans des contes sanscrits du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui ont été traduits en latin, ça m'a beaucoup surpris, traduits en latin en 1278, et qui ont une influence qui, moi, m'a beaucoup étonné. une influence sur La Fontaine, sur...
Pardon, ça a été traduit en latin d'Italie, si je puis dire, ça a été traduit en Italie, on sait ça?
Je crois que c'était traduit en France, il me semble. France. Parce que ça a rayonné très très vite à partir de la France. Donc il y a ces contes sanscrits, et il y a aussi des traces chez Ésope, en Grèce antique, donc même avant.
Ésope a un chat botté?
Il a un chat.
Ah, un chat.
Un chat. Mais qui est aussi fourbe que le chat botté. Et qui, comme dans le chat botté, a un seul objectif, c'est de gagner de l'argent. Et il y a aussi deux auteurs italiens.
En tout cas, Perrault écrit son conte à quel moment?
Dans les années 1695.
Et alors, il y a une originalité d'Antique, c'est que là, vous venez d'en donner des exemples. Les chats, comme tous les animaux d'ailleurs, sont des personnages de conte et plus rarement de théâtre. Il y a des animaux dans le théâtre, par exemple dans le Comme il vous plaira de Shakespeare, mais... Au fait, ce sont des humains qui sont métamorphosés pour un bref instant. Éthique transporte un personnage de conte dans le théâtre.
Enfin, on ne sait pas si c'est un animal qui se métamorphose ou un humain qui devient un animal. Enfin, c'est...
Mais dans la pièce, il est chat.
Ah, alors ça...
C'est... Non
ah, ça, c'est intéressant parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'il était chat. Et je suis maintenant convaincu que c'est un acteur. Le prologue où se trouvent certains personnages fictifs, inventé par Tic. Et dans ce prologue, quelqu'un dit un acteur va jouer le chat.
Donc il amorce quelque chose qui se produira, on en parlera un peu plus tard,
oui.
de l'ordre du théâtre dans le théâtre. Il y a une chose que fait Tic que n'avait pas faite Perrault, je ne sais pas pour les contes antérieurs, c'est que, alors qu'en général dans les contes, les personnages ne sont pas nommés, ils sont caractérisés par leur apparence, la belle, la bête, le petit chaperon rouge, précisément le chat botté. Lui, il lui donne un prénom, n'est-ce pas?
Tic, oui.
Ouais, il s'appelle?
Il s'appelle Hinze. Hinze, que j'ai traduit par Henri, comme un diminutif de Heinrich. Et par contre, dans les didascalies, je l'ai gardé comme étant le chat.
Et lui, Tic dit quoi? Le prénom dans le didascalie, vous vous rappelez?
Ah, je ne me souviens plus. Et je crois qu'il le prénomme, oui.
En tout cas, c'est un acte significatif de lui donner un prénom. Je crois que, oui. Si je ne me trompe pas, le prénom est utilisé assez peu dans la pièce de foi, peut-être. Ou...
C'est dans des moments d'intimité, en fait.
D'après vous, il le prénomme pour accentuer l'ambiguïté avec est-ce un chat ou un acteur? Ou
oui.
Il...
Oui, oui, oui. Oui, oui, je pense.
Il faudrait peut-être... dire, tout le monde ne le sait pas, ça n'est pas le romantique allemand le plus connu, qui était Tic.
Ah.
Parce qu'en France, on connaît bien Hoffmann, on connaît bien certains romantiques allemands, mais pas lui, je crois.
Non, parce que justement, il est à l'origine de beaucoup de choses. En réalité, il est le premier à avoir traité les contes et le fantastique comme Hoffmann va le faire après. Mais lui appartient à ce qu'on appelle le premier romantisme, le cercle d'Iéna.
Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est le premier rassemblement d'esprits, j'allais dire, non éclairés, qui ne veulent pas être des esprits des Lumières, qui veulent être des poètes et des penseurs complètement libres, dont Schleiermacher, dont Novalis, dont les frères Schlegel, Wagenroder. Bon, ils ne sont pas beaucoup.
Et Tic est là au début?
Tic est là au début, dès il a 24 ans, et d'ailleurs, il rentre, si on peut dire, il rentre dans ce cercle, au moment même où il publie la pièce du chat botté, donc en 97.
Oui, c'est ça, en 97, c'est même un peu avant la constitution du cercle d'Iéna, non?
Ou... Non, c'est vraiment...
C'est concomitant.
C'est contemporain, vraiment contemporain.
Contemporain. Et qu'est-ce que... Vous avez dit une chose importante, qu'est-ce que c'est que cette réaction contre les Lumières?
Ah, c'est ce qui avait été amorcé par le Sturm und Drang. C'est un mouvement qui... d'émancipation absolument phénoménale, qu'on voit dans cette pièce, d'ailleurs. Moi, je considère que c'est une pièce manifeste, presque. Cette nouvelle approche du théâtre et de beaucoup d'autres choses, de la pensée, va être placée sous le signe de l'ironie.
Mais en quoi il rejette les Lumières?
Parce que l'ironie, et l'ironie, ce qu'on appelle romantique, se veut une forme de contestation contre toute forme figée de langage, et donc de pensée, pour avoir un accès beaucoup plus débridé à l'imagination, enfin en tout cas au monde imaginaire.
D'où aussi le retour vers des références très anciennes, médiévales.
Et... C'est ça, orales.
Oral.
Parce que le chat botté est aussi un conte oral. avant tout, finalement, il a été...
Est-ce que d'ailleurs, en matière de... Vous parlez de langage, est-ce que l'allemand de Tieck, puisque vous l'avez traduit, a une spécificité en dehors de son style à lui ?
J'ai pas trouvé, non.
Non ?
Non. Je l'ai trouvé assez limpide. Moi, je l'ai rendu peut-être un petit peu plus familier qu'il ne l'est. Par exemple, au lieu de mettre cela, j'ai dit ça. Mm-hmm. Ce sont des petites choses comme ça. Pour le rythme.
C'est une pièce en prose, en allemand, comme
oui,
en
oui.
français. Hein.
Oui, oui. Mais avec des passages en vers. Des passages très étranges en vers.
Pourquoi étranges ?
Ouais, parce qu'ils viennent de la flûte enchantée. Il y a des passages entiers de la flûte enchantée qui étaient montés en 1791, donc 6 ans avant le Chaboté.
C'est dire que ça a été un triomphe.
Ah oui, oui.
Et donc il reprend des passages spécifiques oui. Pour vouloir dire quelque chose ou simplement pour le...
Ça fait partie de cette espèce de construction à moitié délirante qu'est le Chaboté, où tout se mélange. Et je vous parlais d'ironie romantique, et bien l'un des principes de l'ironie romantique, c'est de mélanger les genres.
À propos de genre, il y a une chose annexe, mais qui ne l'est peut-être pas tellement, c'est que le Chaboté se moque ou semble se moquer de l'idée de virilité. Il dit, quand son maître lui demande pourquoi il choisit des bottes plutôt que des souliers, « Je dois avoir une allure qui en impose, bref, une virilité qu'on ne peut pas exprimer avec des souliers. » Et quand son maître, au tout début, lui propose de le raser, il refuse en lui disant « Certainement pas, quand on les rase, tu sais que les chats, après, ont l'air efféminés. »
Je pense, moi aussi, que c'est pour souligner son caractère anthropomorphe. En fait. Et c'est assez scandaleux aussi. Donc je crois que Tieck ne crache pas sur le scandale.
Il l'a cherché ?
Je pense, oui.
De quelle façon ?
Oui.
Des répliques comme ça ?
Oui, c'est ça. Et puis par la forme de sa pièce.
Oui, on va... D'ailleurs, il est aussi... il est moqueur en tout point, car il se moque, je vais donner un exemple si vous voulez bien, à la fois de la chose et de l'opposition à la chose. Et là, par exemple, il se moque de la niaiserie de la princesse et en même temps de la misogynie ambiante. La princesse dit, après avoir gribouillé quelque chose, « Les sentiments ne sont-ils pas rendus avec une subtile délicatesse ?» Et l'autre, le personnage qui est vis-à-vis d'elle lui répond « Une indicible délicatesse. On a peine à croire qu'un texte comme celui-ci est né d'un esprit féminin. »
Ah oui, c'est...
Donc c'est assez... C'est une ironie qui s'applique à tout.
À tout et à tout le monde.
Oui. D'où d'ailleurs la peine qu'on a de savoir réellement ce que Tieck pense lui-même.
On ne sait pas. On sait à peu près ce qu'il pense dans le domaine politique. En tout cas, d'après ce qu'il dit dans cette pièce.
Alors ?
C'est un révolutionnaire.
À ce moment-là, en tout cas.
Oui, oui. Après, bon, il a vieilli, il a connu les deux romantismes, hein, donc le cercle d'Iéna, le cercle de Heidelberg. Il était devenu quelqu'un un assi, dirait Rimbaud, hein, et incontournable, une espèce de dinosaure.
Mais nous n'avons pas dit qu'il a été extrêmement prolifique,
ah oui.
Très jeune. D'ailleurs, quel âge avait-il quand il a écrit le Chaboté ?
À 24 ans.
24 ans, c'est ça. Oui. Il n'a pas cessé d'écrire, de produire des contes.
Même avant, en plus. Oui.
Un peu avant, mais il n'avait pas publié ni représenté avant, non ?
Non, parce que son père le lui interdisait.
Est-ce qu'il y a dans la version de Tieck des variantes par rapport à la version de Perrault et aux versions antérieures ?
Énormément, oui.
Alors lesquelles ?
Oui, dans tous les domaines, en fait. Tous les domaines. Dans le... C'est difficile à aborder, mais on a parlé des noms.
Oui, ça c'est très important.
Voilà, le fait aussi que le chat soit doué de parole, c'est quelque chose qui ne dérange personne et ne gêne personne chez Perrault. Ça paraît tout à fait normal parce que nous sommes dans le merveilleux. Mais ce qui m'a plus intéressé, c'est que dans la pièce de Tieck, les gens s'étonnent de voir un chat parler. Il y a, ne serait-ce que même que dans l'héritage. L'héritage n'est pas le même.
Lequel est-il dans Tieck ?
Dans Tieck, c'est un bœuf, je ne sais quoi, un autre animal, un âne et un cheval. Enfin, le moulin a disparu.
Donc ça veut dire que et par le personnage, et par la prénomination, et par les subtils changements, le fait qu'il parle ou pas, en fait, on a un peu l'impression que Tieck met en place des petites bombes dans sa pièce.
Partout, oui, tout à fait. Ça explose partout, et c'est un feu d'artifice, en fait.
Nous allons maintenant entendre un Chaboté réalisé pour France Culture par José Pivin. Claude Pieplu y était le conteur, et Michel Lonsdale, le Chaboté, c'était le 1er juin 1972.
à la lisière d'un petit bois. Sur le talus où le thym se rôtit au soleil, des terriers de lapins. Il fait une jolie matinée de beau temps. Dans les herbes, le chat botté s'avance sans bruit. Son sac vide sur l'épaule.
Moi, je n'ai pas besoin de chien pour aller à la chasse. Et je suis à la fois le chasseur et son chien. Puisque je suis un chat botté. Il me semble sentir par là l'odeur de petits lapins. Non, je ne me trompe pas, c'est bien cela. Cette odeur de poils tièdes qui flottent dans l'air et ces trous dans la terre. Préparons notre piège. Je mets cette carotte au fond du sac, un bâton dressé pour maintenir le sac ouvert, une corde que j'attache au bâton, et je vais me cacher derrière ce buisson de prunelles en tenant l'autre extrémité de la corde à la main. Quand le lapin sera entré dans le sac, tchouk, je tire la corde, le bâton saute et... En voilà un. Chut.
Nicolas Vaquet, la chose extraordinaire, vraiment extraordinaire de ce chat botté, au-delà du personnage, c'est la forme même de la pièce. Elle raconte, comme je le disais dans mon introduction, l'histoire du chat botté, mais elle met sur la scène, et pour la première fois, les spectateurs ou des spectateurs, des critiques et même l'auteur.
Et je dirais même le décor.
Et même le décor, vous avez raison. Expliquez-nous ça.
Il y a quelque chose qui est très important, c'est la première didascalie de la pièce. Dès qu'on ouvre le livre, on tombe sur la scène est au parterre. Ça, c'est une... Vous parliez de bombe, c'est une bombe absolue. C'est comme dire le plancher est au plafond. C'est le monde à l'envers. Et donc toute la pièce est un monde à l'envers, je dirais, et tout est inversé, tout joue dans tous les sens du terme. Hein. Tout le monde joue d'ailleurs, hein, on joue un rôle. Mais toujours aussi parce que rien ne tient en place.
C'est-à-dire qu'il faut expliquer qu'aux éléments purement historiques de l'histoire du chat botté sont mêlés dans des scènes, des spectateurs qui parlent.
Alors, voilà. Ça, oui. Il y a des critiques, tout d'abord, hein, des critiques qui sont autour par terre, qui donnent leur avis, qui font beaucoup de choses très très importantes, en particulier qui modifient même le cours de la pièce.
De quelle façon ?
En tapant des pieds, en exigeant tel acteur, en refusant tel passage, en applaudissant le décor, justement, parce que c'est le décor de la flûte enchantée qui arrive. Alors. C'est l'extase au parterre. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le parterre, d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé qu'il était traité comme un espace scénique, en soi, à part entière. Dans la mesure où il a ses propres personnages, qui sont, alors j'ai gardé les noms allemands, hein, Wiesner, Müller, tous ces noms-là. Et ces propres personnages ont leur propre discours. Ils ont un vocabulaire un peu spécial, un peu technique. Ils ont des exigences, ils veulent absolument le bon goût, ils veulent des choses vraisemblables. Ils ont des codes, et ils ont aussi une certaine intrigue, puisqu'il y a des allées et venues, des conflits, ils rentrent, ils sortent, ils s'apostrophent. Donc c'est déjà très vivant au parterre. C'est déjà une petite pièce.
Mais c'est une pièce qui est à la fois, qui est tout ce que vous dites, mais qui est en même temps une critique de la critique ce que je trouve pour moi plus audacieux, parce qu'on sait qu'au théâtre, la seule religion, c'est celle du public qu'il ne faut jamais critiquer parce que c'est lui qui paie. Et là, Tic est rempli de sarcasme vis-à-vis de l'imbécilité des spectateurs qu'il invente, parce que la plupart sont des bourgeois ou ont des idées convenues.
Sauf un ou deux qui ont le nez creux, je dirais, qui voient. L'un comprend que ce qui va se passer, c'est un stratagème et c'est une pièce qu'il appelle déjà une pièce révolutionnaire. Donc lui, il est un peu plus fin que les autres.
Mais sauf erreur, pas dans les spectateurs, non ? Les spectateurs sont assez conventionnels.
Alors, les spectateurs, ils n'interviennent pas beaucoup. Il siffle, Ils lancent les chapeaux parfois. Enfin, on a une espèce de paradis qui est un peu bouillonnant, mais ce qui est vraiment important, c'est le parterre.
Alors, apparaît aussi, et tout ça, le chaboté, là, il y a des intermèdes avec les aventures du chat qui sont maintenues, il faut le lire. Une chose intéressante, c'est qu'arrive aussi l'auteur.
Alors oui, il y a un auteur fictif. Alors, ça fait aussi partie des exigences de l'ironie romantique dont je vous parlais, qui est...
Pardon, là je vous interromps, mais vous parlez depuis tout à l'heure des exigences de l'ironie romantique, mais vous parlez d'exigences qui n'existaient pas, puisque c'est la pièce qui les a fondées, donc c'est l'ironie de Tieck.
Non. Ah non. Et non, parce que Schlegel, donc Friedrich Schlegel, en 1797, à l'époque même où Tieck écrit la pièce, publie, je ne sais plus dans quelle revue, dans l'Athénéum, je crois, enfin bon, une revue romantique d'Iéna, il publie tout un article sur l'ironie romantique, en énumérant les points fondamentaux, parmi lesquels l'intervention de l'auteur, la présence d'un, ce qu'on appelle un métadiscours, intégré à la pièce elle-même ou à l'œuvre elle-même, et une forme d'esprit qui est très difficile pour nous à traduire, mais qui s'appelle le Witz en allemand, qui est à la fois une forme d'esprit et les saillies qui germent de cet esprit. C'est d'avoir l'esprit très parti, d'avoir un esprit très caustique. Tout ça fait partie de l'ironie romantique.
C'est un peu comme le wit anglais.
Mais c'est peut-être encore plus acerbe.
Acerbe?
Oui. Le wit a une certaine élégance. Le Witz, il est plus destructeur encore.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette pièce très audacieuse, c'est que moi, j'ai l'impression qu'elle est pleine de sérieux, mais aussi de fantaisie. Et il y a une chose qu'elle semble ne pas prendre au sérieux, c'est l'œuvre elle-même, mais en revanche, elle prend l'art au sérieux.
Oui, énormément. Et je dirais même, elle prend au sérieux l'attitude et l'entreprise créatrice. C'est finalement ça qui est, je trouve, la clé de cette œuvre.
De quelle façon ?
Par la destruction, par la déstructuration aussi. Oui. Parce qu'on trouve une certaine tradition là chez Tieck, qui est celle du théâtre dans le théâtre, de la comédie des comédiens, hein, comme on voyait à Versailles.
Dans l'illusion comique.
Dans l'illusion comique, chez Scudéry, chez Molière. Mais là, ce qui est très frappant, c'est que Tieck ne nous montre pas une pièce qui se fait, mais une pièce qui se défait.
De quelle façon ?
Ah ben, parce que tout éclate.
Mais racontez-le nous, parce que tout le monde ne le sait pas.
Non, mais toutes les règles éclatent. C'est-à-dire qu'il y a plus de 45 personnages. Donc c'est impossible à mettre en scène. Il y a je ne sais pas combien de lieux. L'intrigue se déroule sur plusieurs mois. Donc toutes les règles aristotéliciennes sont bafouées, volent en éclats.
Mais il y a quelque chose de très novateur malgré tout, parce que même si le théâtre dans le théâtre existait, c'était ou bien... Après, il y avait des résolutions d'intrigue qui faisaient que c'était une pirouette et on n'y croyait pas. Ou bien c'était des moments très courts dans la pièce, ou comme dans Shakespeare. Et là, c'est l'entièreté de la pièce.
C'est ça. C'est pour ça que le théâtre dans le théâtre n'est pas ici une mise en abîme.
Voilà, c'est ça.
On ne retrouve pas une petite pièce au sein d'une pièce cadre. Et cette petite pièce ferait évoluer la pièce cadre. Non, c'est entièrement pensé comme une représentation. En relisant la pièce, je me suis surpris à penser que ce n'était pas tellement du théâtre dans le théâtre, mais presque plus de l'opéra dans le théâtre. Par la constance de la musique, de la mise en scène, du décor, et surtout de la fin de la pièce, qui échappe totalement à l'auteur fictif.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, l'auteur fictif arrive sur la scène en disant « Voilà, je suis désolé, mais vous n'avez pas aimé ma pièce, que se passe-t-il ? Pourtant, j'ai fait de mon mieux. » Et le public et le parterre réclament « Nous voulons le décor ». Et ce décor, c'est celui de la flûte enchantée.
C'est une pièce tellement subtile et ironique, comme vous le disiez, que par moments, elle se permet de ralentir et de ne pas l'être, et elle dit des choses révolutionnaires. Vous disiez que Tieck était révolutionnaire. Eh bien, il y a une réplique terrible sur le pouvoir qui est, je vous cite dans votre traduction, c'est le personnage du bouffon du roi qui parle et qui dit « Je suis allemand, hélas ». Mes compatriotes, à une certaine époque, sont devenus tellement sages qu'on ne pouvait plus plaisanter sous peine d'être châtié. Je passais partout pour un personnage bizarre, inconvenant et grossier. Quiconque riait de mes farces était persécuté lui aussi. Je crois qu'il y a là une définition de la tyrannie.
C'est exact, oui. Incarné plus tard par l'ogre.
C'est une pièce qui a l'air immontable. Est-ce qu'elle a été montée?
Alors, elle a été montée après une certaine remise en forme. 1844, la pièce est jouée.
Et des modifications ayant été faites par Tieck lui-même?
Oui, par Tieck lui-même, oui.
Et dans un sens de simplification de...
Non, au contraire.
Au contraire?
Au contraire. Le peu que j'en sais, c'est que les personnages avaient un peu plus de poids. Parce que là, les personnages défilent très très vite.
Oui. Et donc, la pièce a eu du succès ou pas?
Ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout.
Est-ce qu'elle a été montée dans les temps contemporains?
Elle a été adaptée en 1988. Et elle a été jouée en mars 88 par Jean-Claude Grimbert, je crois. C'est une adaptation qui est très, très libre. On est très loin de, on est très loin de Tieck.
Parce qu'en réalité, si Tieck a dû la simplifier ou la modifier pour la monter, si elle l'a été si peu, est-ce que ça n'est pas... Parce qu'au fond, ça a une apparence de théâtre, mais ça n'est pas du théâtre.
Ah, c'est difficile à dire parce que c'est tellement... Je crois que le théâtre, enfin là, l'envie de faire du théâtre est à l'œuvre, est à l'origine même de cette pièce. C'est un peu dur à expliquer, mais c'est de faire comme si Tieck avait voulu jouer à l'écrivain, au dramaturge.
Ah oui, c'est une racine carrée de comédie alors.
Je pense. Au-delà de la satire, au-delà du théâtre dans le théâtre, une espèce d'exercice complètement délirant, un humour loufoque qui au fond veut dire quelque chose d'assez sérieux, mais qui reste joué, qui reste... Même ce sérieux-là, je ne crois pas qu'il soit pris tellement au sérieux.
Ah, en tout cas, il faut absolument lire votre traduction, parce que c'est d'une part une très bonne traduction, mais une pièce vraiment prodigieuse. Nicolas Vaquet, qu'est-ce que vous a appris le personnage du Chaboté?
C'est moins le Chaboté lui-même que son détournement par Tieck. Et ça m'a permis de comprendre... Et ça m'a apporté, je pense, oui, permis de comprendre qu'on pouvait créer quelque chose en déstructurant, en détruisant. Mais ça, c'est une chose. Ça m'a appris quelque chose d'un peu plus moral, qui est que même quand on n'est absolument rien, comme ce chat ou le maître du chat, eh bien, par la ruse, par la fourberie, par le mensonge, on peut arriver au sommet, c'est-à-dire à la royauté, à l'accomplissement, à la richesse. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir une morale tout à fait et complètement amorale.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée de programme Mérine Moneghetti, prise de son Olivier Dupré.
Ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
Un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté. La rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers.